je respecte trop ce monde du vin et en particulier ses propriétés pour même avoir l'idée d'influencer la partie technique production pour des raisons commerciales.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Une fois n'est pas coutume, c'est de marketing dont il s'agira aujourd'hui. Nous aimons toutes et tous le vin ici, et nous continuerons encore longtemps à essayer de percer les mystères de sa production et des terroirs. Reste que les vignerons et vigneronnes que nous rencontrons ne font pas du vin pour la beauté du geste, ils le font pour le vendre. Et quelle que soit la qualité, du vin le plus simple au meilleur des grands crus, il faut réussir à le vendre, même quand on s'appelle Ikem ou Cheval Blanc. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est simple de vendre Ikem ou Cheval Blanc ? Eh bien, oui et non. En tout cas, votre remarque, je l'ai faite à Mathieu Julien, qui dirige la division Vin d'Exception au sein du groupe LVMH. Il a en charge la mise en marché de 4 des joyaux du groupe, Clos des Lambrais, Ikem, Cheval Blanc et Colguin Cellar. Et il s'apprête à vous dévoiler bon nombre de ses secrets. Bonjour Mathieu Julien.
Bonjour Romain.
Merci de m'accueillir dans ton bureau.
Avec plaisir.
Alors on est dans un endroit un petit peu spécial aujourd'hui, puisqu'on est au siège de LVMH à Paris. Effectivement, ça va être un petit peu original pour nos auditeurs, mais il y a beaucoup de sujets que je voudrais aborder avec toi. Alors pour expliquer un petit peu, on s'est rencontrés il y a quelques mois lors d'un déjeuner plutôt agréable dans le Bordelais.
Déjeuner champêtre.
Exactement. Et on a eu une conversation que j'ai trouvée passionnante et que je voulais absolument partager avec nos auditeurs. Et c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui.
Écoute, merci de t'intéresser à mes sujets.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Oui, avec plaisir. Moi, je suis donc Mathieu Julien. Je suis le directeur marketing et commercial des vins d'exception du groupe LVMH.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant de te retrouver ici, Avenue Montaigne, s'il te plaît ? Tu as eu une longue vie londonienne, notamment.
Exactement. Ouais, mon environnement naturel, c'est plutôt la sommellerie londonienne. Pas que j'étais sommelier, mais j'ai passé plus de 15 ans à travailler de façon très proche, d'un côté avec des grands vignerons, notamment français, mais italiens aussi, et un petit peu d'ailleurs californiens. Et j'importais leur vin que je distribuais en priorité à la belle sommellerie, ça allait du bistrot aux étoilés Michelin. Et voilà, j'ai fait ça pendant 15 ans à Londres, avant de quitter Londres pour rejoindre LVMH.
Alors avant de parler de ce que tu fais ici et de ton travail, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi et puis de ta relation au vin. Déjà, puisqu'on était sur Londres, là, c'est une ville qui est très différente de Paris vis-à-vis du vin, notamment parce que c'est un pays qui n'est pas un pays producteur et qui boit beaucoup de vin du monde entier. Comment ça se passe le vin à Londres ?
Bah, écoute, c'est complètement lié effectivement à mon parcours personnel parce que moi, je suis né dans le vin. Je suis fils de vigneron dans le sud de la vallée du Rhône et je suis petit-fils par ma maman de courtier en vin. Dans le sud de la vallée du Rhône, donc j'avais vraiment ça en moi.
Dans quel coin de la vallée du Rhône ?
Exactement, c'est dans le Gard, c'est un village qui s'appelle Pont-Saint-Esprit. C'est à la frontière de l'Ardèche, le Vaucluse, la Drôme, c'est la pointe nord-est du Gard, on a une appellation Côte-du-Rhône et Côte-du-Rhône-Village. Et j'ai toujours voulu travailler dans le vin, et j'avais le choix entre, je dirais, le côté paternel, faire du vin, et le côté maternel, qui était de vendre du vin, et j'ai choisi très tôt le côté maternel, sans avoir l'opportunité de reprendre le bureau de courtage de mon grand-père. Il y avait une différence d'âge qui était trop importante, mais voilà, je me suis dit, si je veux faire ce que faisait un petit peu mon grand-père, mais à mon époque, il faut que je parle anglais. Voilà, il faut que je parle anglais. Donc j'ai fait des études de commerce qui m'ont amené à Reims. Et de là, tout de suite, j'ai trouvé un VIE dans un pays anglophone, dans le vin. Et il se trouve que j'étais un petit peu déçu, honnêtement, d'aller à Londres, parce que je rêvais plutôt d'Australie ou de Californie, mais et puis j'avais, bon voilà, amateur de rugby, j'avais pas une attirance folle pour les Anglais, mais en fait j'ai appris bien plus que l'anglais, quoi. Je suis allé à Londres pour l'anglais, et en fait j'y suis resté très longtemps, d'ailleurs en tout j'y suis resté 17 ans, notamment bon, parce que j'ai construit ma vie, mon épouse, ma famille, etc. Mais aussi parce que j'ai rencontré des mentors, des Anglais, francophones, francophiles, grands amateurs de vin, fins connaisseurs, et qui m'ont, ouais, voilà, qui m'ont tout appris, quoi.
Tu penses à qui en particulier là ?
Je pense à plusieurs personnes. C'est pas des gens que tu connaîtrais, mais je vais en nommer un, parce qu'en plus il est mon parrain. J'ai pris la nationalité britannique avant de quitter l'Angleterre, avant de quitter Londres. Et je pense à Tim Sykes, qui en plus est donc francophone. Si jamais il entend ce podcast, Tim, je te salue.
Qu'est-ce qui t'a apporté ?
Bah, il m'a apporté une ouverture d'esprit. Il m'a apporté... Moi, honnêtement, avec toute la bêtise et l'arrogance que ça comporte, mais moi, je partais à 20 ans à Londres pour apprendre aux Anglais ce que c'était le vin, quoi. Au moins, ce que c'était le vin de la vallée du Rhône. Et en fait, c'est lui qui m'a appris... Enfin, c'est lui. Il n'y a pas que lui, hein, mais s'il se trouve que c'est un grand amateur de vin de la vallée du Rhône, et que non seulement j'ai appris le vin à Londres, mais j'ai même appris la vallée du Rhône à Londres. Donc, c'est assez marrant. Et puis, apporter aussi une espèce de... Comment on appellerait ça ? Un aspect commercial, qui était vraiment de se dire... Le monde du vin, moi je connaissais vraiment pas la partie commerciale, distribution, je connaissais vraiment le côté production, et même ce que faisait mon grand-père, je voyais pas le commerce. En fait, j'avais la chance de tourner avec lui dans quelques belles propriétés, c'est très très humain en fait, je le voyais échanger, plaisanter avec tous les vignerons chez qui il allait chercher des échantillons, etc. Mais je comprenais pas la dimension commerciale. Pour moi, le vin, c'était presque un art de vivre. Et les Anglais m'ont appris le commerce, voilà, clairement, clairement.
Ce côté art de vivre, les Anglais, ils l'ont aussi dans leur relation au vin, non ?
Ah, mais complètement. Ah non, mais complètement. Les Anglais ont complètement cette connaissance fine, ce plaisir du partage. Enfin, moi, il y a un truc qui m'a très vite impressionné. C'est, en Angleterre, dans une bonne famille, tu bois la cave de ton père, et tu bâtis la cave de ton fils. C'est la transmission au sens de la connaissance, mais aussi physiquement des bouteilles, quoi. C'est quelque chose de fabuleux. Mais justement, moi, et d'ailleurs, quand je suis arrivé dans mon poste actuel et que j'ai rencontré des gens, notamment à Bordeaux, que je ne connaissais pas du tout, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis français, mais je suis un petit mougli, quoi. Je suis un français élevé par le British Wine Trade, quoi. Avec un côté très down to earth, quoi. Tu vois, il faut que le vin, c'est magique, le vin, c'est un produit qui n'est pas comme les autres, mais en même temps, il y a des gens qui en vivent, il faut qu'il y ait des principes de base du commerce qui soient respectés, quoi.
Tu débarques à Londres à 20 ans en voulant expliquer aux Anglais ce que c'est le vin.
Ouais.
Voilà. En 2019, tu reviens à Paris.
Ouais.
Est-ce que tu t'es dit, maintenant que les Anglais m'ont bien appris le vin, je vais apprendre aux Français ce que c'est le vin ?
Non, parce que j'avais perdu mon arrogance de mes 20 ans. Mais non, je me suis dit que je pouvais apporter un regard différent, parce qu'en fait, je pense vraiment que j'ai appartenu à ce British Wine Trade, qui a toujours eu une relation un peu... Bah, de love-hate relationship, hein, de amour-haine, avec notamment la place de Bordeaux. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je vais découvrir cette place de Bordeaux à laquelle je n'appartiens pas, ou en tout cas, je n'appartenais pas du tout. Et je vais essayer de voir quel pont on peut construire entre les deux et trouver des intérêts communs, en sachant qu'ils se connaissent très bien entre anglais et bordelais. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas impliqué qu'à Bordeaux. Je suis sûr qu'on va en parler ensemble.
Oui, on va venir en détail sur l'activité de vin d'exception.
Mais c'est vrai que ces deux places de marché international, hein, Londres et Bordeaux, sont à la fois complices et concurrentes, etc. Donc il y a des relations, évidemment, historiques très, très anciennes et qui s'expriment encore aujourd'hui, quoi.
Bon, venons-en au vif du sujet. Donc, toi, tu fais partie de l'entité vin d'exception d'LVMH.
Oui.
Donc, le groupe LVMH a de nombreuses propriétés vitivinicoles dans le monde.
Oui.
Il y a Moët-et-Chandon, Runard en Champagne, il y en a d'autres. Hein. Il y a Dom Pérignon, il y a Veuve Clicquot. Il y a Le Clos des Lambrais, il y a Cheval Blanc, il y a des propriétés à l'international. Mm-hmm. Et dans toutes ces propriétés, il y en a quatre qui ont été sélectionnées. Qui sont Le Clos des Lambrais, Cheval Blanc, Colguin-Sellard et
Ikem.
Voilà.
Alors, dans l'ordre protocolaire des vins d'exception, ouais. C'est Le Domaine des Lambrais, Château d'Ikem, Château Cheval Blanc et Colguin-Sellard.
Ouais. Voilà. Et qui, elles, pour une partie de leur activité, sont chapeautées par l'entité vin d'exception.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette entité et quelle est sa mission ?
Oui, alors. Déjà, première chose, effectivement, il y a dans le groupe LVMH une branche importante, très importante même, dédiée aux vins et spiritueux, et notamment aux champagnes et spiritueux, qui s'appelle Moët & Cie. Et effectivement, il y a quatre propriétés qui ne sont pas directement ni détenues ni rattachées à Moët & Cie. D'où l'idée, il y a quelques années maintenant, avant mon arrivée, de la création d'une entité vin d'exception de LVMH, et qui est un petit peu c'est une ombrelle qui regroupe ces quatre propriétés qu'on vient de citer. Et elles ont la particularité de ne pas être distribuées par les différentes filiales et réseaux de Moët & Cie, mais d'être distribué par des tiers. Donc, pour ce qui est Ikem et Cheval Blanc, 100% de la distribution est assurée en premier rideau par la place de Bordeaux, et ensuite par tout le système de distribution international de la place de Bordeaux. Et pour ce qui est du domaine des Lambrais, ce sont des relations avec des importateurs, distributeurs. Et pour ce qui est de Colguin, c'est le cas aussi à l'étranger, mais en sachant que Colguin a un modèle californien avec la plus grande majorité de sa production vendue en direct to consumer à des allocataires privés, et notamment pour l'immense majorité des allocataires privés sur le territoire domestique américain, et en particulier en Californie. Quoi.
Cette entité, elle a été créée en 2019. Les vins, ils se distribuaient déjà avant. Qu'est-ce qui a changé avec la création de vins d'exception ?
Alors, effectivement, c'est ce qu'on me dit souvent, mais tu fais quoi en fait, ces vins, ils n'ont pas besoin de qui que ce soit pour être vendus, ils sont déjà tellement désirés, et c'est vrai, hein, c'est vrai. Je pense que ce qu'on a apporté, c'est deux choses. Quand je dis « on », c'est qu'on a créé une petite équipe entre 2019 et 2022. Aujourd'hui, il y a trois personnes qui sont présentes dans les marchés. Une personne à Amsterdam pour l'Europe, une personne à Shanghai pour le marché chinois et une personne à New York pour l'Amérique du Nord. Et ensemble, en fait, on représente les intérêts de nos propriétés dans ces marchés, mais on représente aussi, et c'est une partie très importante, les intérêts des marchés dans nos propriétés. C'est-à-dire vraiment quand on est dans les décisions, les stratégies commerciales, de distribution, on fait remonter un maximum d'informations aux propriétés pour piloter la prise de décision commerciale.
Est-ce que ces informations qui remontent, ça peut avoir une influence sur les décisions techniques qui sont prises ou sur le style des vins qui est produit ?
Très bonne question, je te remercie de la poser. Absolument pas. Absolument pas. Et c'est quelque chose qui, justement, je dirais, dont je pense être le premier garant, c'est-à-dire que je respecte trop ce monde du vin et en particulier ses propriétés pour même avoir l'idée d'influencer la partie technique production pour des raisons commerciales. Honnêtement, il n'y a aucune suggestion qui est jamais venue de la part de l'équipe, mais ça ne me donnerait pas l'idée de faire des recommandations de cet ordre-là. Je dirais, au contraire, j'ai eu à cœur, avec chacune des propriétés, de dire la clé, c'est de vous mettre la technique dans les meilleures conditions possibles pour faire la plus belle expression possible de vos terroirs et de votre savoir-faire. Et donc, vous ne souciez pas du commerce. On en parle ensemble, évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de vin, on n'en vendra pas beaucoup. Il y a beaucoup de vin, à l'échelle des propriétés, on saura le vendre. Il y a vraiment ce côté, la production d'abord, l'essence de l'expression de nos propriétés, sans se poser des questions d'ordre... les parts de marché, la croissance, les rendements, etc. Et c'est d'ailleurs des instructions qui viennent complètement de ma direction. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que l'entité vin d'exception, là, vous achetez les vins en propriété et ensuite vous les revendez ? Ou est-ce que vous êtes simplement un intermédiaire ? Est-ce que tu peux nous décrire ça, s'il te plaît ?
Non, on n'est pas un acteur. On n'est pas un acteur supplémentaire dans la chaîne. On a des chaînes de distribution qui sont déjà assez, parfois assez complexes, hein, avec plusieurs intermédiaires entre le château et le consommateur final. Et donc, on n'est pas un acteur, on n'est pas une entité qui structure, je reprends. On n'est pas une entité qui facture. Au contraire, on est une entité qui structure. On n'est pas une entité commerciale d'une certaine façon. On gère, on oriente notre distribution. On participe à la stratégie commerciale, mais on n'a pas une fonction de facturation et de génération de chiffre d'affaires. Très concrètement, la propriété facture sa distribution de premier rideau sans avoir besoin de rajouter une épaisseur de vin d'exception qui en plus aurait sans doute besoin de prendre une marge, etc. Non, c'est pas ça.
Alors tout ce que tu nous décris là, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble qu'on peut appeler ça de la mise en marché, notamment. C'est une de vos attributions.
Ouais, absolument.
C'est ce dont on avait discuté quand on s'était rencontrés. Vous êtes responsable de la bonne mise en marché des vins, des propriétés,
c'est une responsabilité qu'on partage, hein, très clairement, c'est-à-dire qu'il y a un management en place dans chacune des propriétés de vins d'exception, et il n'y a pas c'est pas comme ça que le groupe LVMH fonctionne, en dehors des vins d'exception, hein, c'est qu'il y a une forme de responsabilité de chacune des maisons, et donc les dirigeants des maisons sont très impliqués dans les décisions stratégiques des maisons. En revanche, c'est quelque chose sur lequel l'entité vin d'exception intervient, et je pense que à la fois les propriétés et l'écosystème de notre distribution reconnaîtraient facilement que la création de vin d'exception a permis d'avoir un impact sur l'orientation commerciale de chacune des propriétés. Donc, c'est-à-dire que on fait des recommandations au moment de la préparation des mises en marché. Et ensuite, c'est des échanges entre nous qui permettent d'arriver à une proposition finale qui est tranchée par nos propriétaires.
Est-ce que la création de cette entité, elle a été accueillie peut-être fraîchement par certains domaines au départ en se disant ça va faire un intermédiaire supplémentaire alors qu'on distribue déjà nos vins Pourquoi on fait ça ?
C'est une bonne question, mais je pense que c'est une question qui est légitime, mais il y a eu deux facteurs qui ont fait que ça n'a pas été le cas. Il y en a un, c'est un facteur qui est, je pense, la qualité des gens en place et qui ont vu la création de cette entité comme un atout supplémentaire dans le pilotage de leur... des propriétés dont ils ont la responsabilité. Et d'autre part, je suis arrivé à un moment où il y a eu aussi un renouvellement du management des propriétés, de certaines propriétés en tout cas. domaine des Lambrés, Jacques Devoges, qui en est le gérant, a pris, le régisseur, en a pris la tête en février 2019, de mémoire, et moi je suis arrivé en septembre 2019. Donc on va dire, on est arrivé ensemble, en tout cas les premières mises en marché ont eu lieu ensemble. Et à IKEM, on a aussi un nouveau directeur d'exploitation qui est arrivé en octobre 2020, quand moi, voilà, j'étais arrivé en septembre 2019, donc j'ai participé à une mise en marché avant son arrivée, mais sous la direction de Pierre Lurton, le président d'IKEM et de Cheval Blanc. Et j'avais la chance de connaître un petit peu l'équipe de direction de Cheval Blanc de par ma vie précédente à Londres. Donc ils m'ont très gentiment accueilli. Et pour Colguin, c'est pareil, j'ai été extrêmement bien accueilli par l'équipe, mais c'est un petit peu différent parce que, une fois de plus, l'immense majorité de leur production est vendue en direct à des clients privés, et honnêtement, on n'intervient pas là-dessus. Hein. Donc, c'est-à-dire que pour la fraction de la production qui est vendue à l'export, là oui, on intervient, on travaille ensemble, on regarde les marchés. En plus, le marché londonien est un marché clé pour les vins américains, donc ça permet d'avoir des échanges intéressants, quoi.
Je te propose qu'on prenne un cas concret et que tu nous expliques un petit peu le processus de mise en marché. Au hasard, Cheval Blanc, qu'on connaît un petit peu dans ce podcast.
Voilà, là où on s'est rencontrés. Alors, un cas concret, d'ailleurs, on va prendre Cheval Blanc, mais c'est la même logique, hein, pour chaque propriété.
Il y a un nouveau millésime qui arrive. Qui doit être mis en vente. Comment est-ce que vous intervenez? Qu'est-ce que vous faites?
Disons que la clé, c'est de penser au consommateur final et à toute la chaîne de distribution qui nous permet de toucher ce consommateur final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se mettre, au moment où on va proposer notre nouveau millésime, dans la tête d'un consommateur final en disant quelle proposition on est en train de lui faire. Et à quel moment on veut lui proposer quelque chose de sympa, quoi, d'alléchant. Ça ne veut pas dire de forcément bon marché, ce n'est pas l'idée, mais de se dire, je suis un amateur de Cheval Blanc, j'en ai déjà X millésimes dans ma cave, j'ai un nouveau millésime qui arrive, la critique lui a déjà donné un petit peu une couleur, enfin en tout cas un très grand millésime du siècle, comme souvent, ou au contraire, année plus difficile, et dire... Pourquoi j'ai déjà un cellar de Cheval Blanc, une collection de Cheval Blanc, ou au contraire, j'en ai pas. Pourquoi je rajouterai une caisse de ce millésime, ou pourquoi je commencerai à collectionner avec ce millésime? Et il y a évidemment des facteurs externes, type j'ai eu un premier enfant cette année-là, etc. Mais ça, on oublie. L'arbitrage se fait sur la qualité perçue du millésime et son prix. Et donc, il faut arriver à proposer au client final un prix qui ait du sens par rapport à tous les millésimes qu'il peut acheter sur le second marché. Aujourd'hui, un amateur de vin peut acheter un bientôt il pourra acheter Cheval Blanc 2022 en primeur au printemps prochain. Il peut aussi acheter Cheval 21 qui est sorti en primeur cette année, Cheval 20, Cheval 19, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais et tous ces vins ont un prix de marché auquel ils peuvent se le procurer, et donc on essaie de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre le dernier millésime de Cheval Blanc et l'historique des prix de Cheval Blanc. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qui avait du sens pour le consommateur final, on remonte la chaîne de distribution en se mettant à chaque fois dans les pas du distributeur. Alors, si je suis sommelier, à quel prix je mettrai ce vin sur ma carte? Si je suis détaillant, à quel prix je vendrai ce vin? Et je remonte. Si je suis grossiste, à quel prix je vais devoir l'acheter et le revendre? Et si je suis négociant, à quel prix je vais devoir l'acheter et le revendre? Et on s'assure qu'il y ait une rémunération juste pour toute la filière. Moi, en étant un ex-marchand de vin, j'estime qu'il y a énormément... En fait, on ne fait pas ce métier distributeur de vin pour devenir riche ou pour devenir... On fait ce métier par passion. Parce qu'on aime le vin, parce qu'on aime les gens du vin. Et avoir la chance pour un distributeur de représenter au sens de d'offrir le dernier millésime de cheval blanc en primeur, c'est quelque chose de fantastique. Mais on veut en même temps pouvoir le représenter et le proposer à ses clients le cœur sur la main, j'ai envie de dire. Tiens, regarde, cheval blanc vient de sortir ce matin. C'est super, il faut vraiment que tu mettes une caisse tu me remercieras plus tard, tu mettes une caisse quand je m'adresse à un client. Et ça, on peut le faire de façon complètement sincère si on sait que le prix est bon, si le prix a été bien calculé. Et en même temps, c'est normal. Moi, je pense que les distributeurs, chaque distributeur a sa place dans la chaîne de distribution. Et enfin, en tout cas, s'il a sa place, il doit être rémunéré pour sa contribution à notre distribution. Voilà.
C'est qui les clients de Cheval Blanc ou d'ICAM ? Parce que là, tu nous décris le système, mais on parle quand même de vins qui sont à des prix très importants. C'est qui vos clients ?
Et d'ailleurs, peut-être, j'ai pas complètement... Excuse-moi, je t'ai parlé que de prix, mais c'est un peu plus... Alors, c'est pas très compliqué, notre métier, mais c'est un peu plus que le prix. C'est aussi une question de timing. Et de mettre en marché avec le client en tête, c'est important aussi. C'est-à-dire de se dire... de tenir compte, il y a beaucoup de vins aujourd'hui qui sont mis en marché par la place de Bordeaux ou par d'autres systèmes, et donc il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir des périodes au contraire où le marché attend qu'il y ait une activité de la part des propriétés qui mettent à disposition leurs vins, etc. Il y a aussi des contraintes logistiques. Alors pour les primeurs, il n'y a pas de logistique, mais on ne met pas que des vins en marché en primeur, on en met aussi en marché en livrable, c'est-à-dire disponible immédiatement. Donc plutôt que la mise en marché soit juste le fait du roi en disant « bon bah tiens, ça m'arrange de mettre en marché dans 3 semaines parce que je fais ci ou ça avant », on se pose la question de se dire à quel moment notre mise en marché pourrait être ressentie comme dans un bon tempo, en fait, dans la respiration commerciale des marchés. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect des quantités mises en marché. C'est-à-dire qu'on réfléchit de façon assez fine à comment donner assez de vin, quelle que soit notre production en fait, comment donner assez de vin à toute la chaîne pour bien fonctionner et pour ensuite avoir suffisamment d'acteurs impliqués et une valorisation des cours sur le second marché.
On reviendra sur la question des clients après.
Mais oui, avec plaisir.
C'est quoi une mise en marché réussie ? Et là, je vais plutôt poser ma question autrement. Est-ce que c'est possible de rater la mise en marché, par exemple, du nouveau millésime de Cheval Blanc ou d'ICAM ?
Oui, c'est possible. C'est possible de rater.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire rater une mise en marché ? Et comment c'est possible ? Pour des vins qui semblent, en tout cas, être autant désirés, quelles que soient finalement les conditions du millésime. Voilà.
Mais c'est très juste. Effectivement, les vins de nos propriétés sont désirés, quelle que soit la qualité perçue du millésime, parce qu'il y a une telle confiance dans le savoir-faire et la capacité à exprimer ces terroirs d'exception. En fait, le marché ne se pose pas la question de savoir si le vin de nos propriétés va être réussi ou pas. Il va être réussi dans le contexte du millésime, d'un millésime frais, d'un millésime solaire, etc. etc. Je ne sais plus ce qu'on disait.
La question, c'était comment est-ce qu'on peut rater
coupera, hein. Ouais, ah, ouais, oui. Oui. Voilà. Mais une mise en marché, ce n'est pas que la qualité d'un millésime. Certains clients finaux, consommateurs, ne vont pas raisonner comme je vais te l'expliquer, mais en fait, la filière, notre filière professionnelle qui gagne sa vie, qui paie ses charges et qui essaie de dégager des profits avec l'activité d'acheter, de stocker, de revendre du vin, elle se pose la question dans d'autres termes. C'est j'ai confiance dans la qualité du millésime, mais est-ce que j'ai confiance dans la stratégie commerciale de la propriété ? Et est-ce que cette nouvelle mise en marché offre des garanties de création de valeur et de partage de la valeur de façon évidente ? Et oui, on m'en propose 10 caisses, j'en voudrais 30, et chacun à son niveau fait ce même raisonnement, et donc il y a une espèce d'engouement professionnel, quoi, pour des gens qui ne vont pas le boire ce vin, ils vont l'acheter, le stocker et le revendre, quoi. Donc oui, il faut les deux éléments, il faut en fait une espèce de confiance du marché dans la capacité de nos propriétés à créer ces grands vins année après année, et ça existe depuis des décennies, pour pas dire des siècles ou des générations. Il faut aussi une confiance dans la capacité de nos propriétés à mettre en marché année après année dans des conditions commerciales optimales, quoi.
Mais qu'est-ce qui peut dégrader cette confiance, ou en tout cas qu'est-ce qui peut faire qu'une mise en marché en face, t'as pas les acteurs ou les clients qui sont au rendez-vous?
Alors ils sont toujours au rendez-vous, parce qu'au final il y a tellement de demandes pour nos vins qu'ils vont être au rendez-vous. En tout cas, si certains disent ok, on propose 10 caisses, allez je vais en prendre 8 parce que il y a quelqu'un d'autre qui prendra les deux autres. Disons que le problème c'est la dynamique dans laquelle on s'installe. Est-ce que quand je propose 10 caisses à quelqu'un, on en veut 30, ou est-ce que quand j'en propose 10, on en prend 8 et on fait la grimace pour en prendre deux autres? Et vraiment, c'est ça qui, c'est la naissance, la façon dont naît un millésime commercialement, qui va impacter en fait, enfin malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais qui aura vraiment un impact assez de long terme sur la vie commerciale du millésime. Parce qu'un millésime qui est commercialement bien né, il y a une dynamique de demande et de transactions sur le second marché qui se crée de façon naturelle et qui s'auto-entretient, en fait. On rentre dans un cercle vertueux.
Oui, j'imagine que cette dynamique, elle t'apporte aussi quelque chose en termes de réputation sur le long terme, ou en tout cas d'envie, ouais, de désir sur le long terme pour un millésime donné.
Ouais, oui, il y a de ça. En fait, la désirabilité, au final... Alors, c'est vrai que comment on juge un vin, on peut s'en tenir aux notes des critiques, et c'est quelque chose d'important pour nous, mais... Il y a quand même beaucoup de critiques aujourd'hui, donc il y a des agrégations de notes parfois. Alors il y a des critiques qui émergent pour des régions plutôt que d'autres. Alors évidemment, on le regarde et c'est important pour nous. Mais le marqueur infaillible de la désirabilité d'un vin, c'est son prix sur le second marché. Alors, je veux dire, c'est là où se rencontrent l'offre et la demande. Et c'est là où, et c'est le nombre de transactions et la valorisation ou la dévalorisation, parce que ça arrive aussi, des vins qui est un marqueur de la désirabilité sur le second marché.
Pour vous, le fait que les vins continuent à s'échanger sur le marché secondaire, que les prix augmentent, que la désirabilité augmente, c'est quelque chose de positif?
Alors, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant, clairement. Et... pour nous, c'est la base, c'est les fondations. C'est-à-dire que quand on fait des vins aussi rares, aussi désirables que les nôtres, qui en plus, on sait très bien que la quantité disponible diminue dans le temps, puisque les vins sont consommés petit à petit, et la qualité augmente dans le temps, le résultat ne peut être qu'un déséquilibre de l'offre et de la demande, et donc une appréciation des prix. Et il y a quelque chose de très logique à ça. On veut consommer aujourd'hui un vin qui a 20 ans, on ne l'a pas acheté il y a 20 ans, on veut l'acheter aujourd'hui. Ça semble normal que la personne ou la société qui a porté ces vins pendant 20 ans, ou les acteurs qui ont porté ces vins pendant 20 ans, puissent être rémunérés. Donc il y a une logique assez imparable. En même temps, au sein de cette création de valeur, il y a un danger qui est la spéculation. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. C'est qu'on recherche les conditions dans lesquelles nos vins vont prendre de la valeur dans le temps, mais on fait tout pour décourager la spéculation pour elle-même, quoi, en tant qu'elle-même, parce qu'un vin est fait pour être bu.
Pourquoi c'est un danger ?
Bah, c'est un danger parce qu'on risque de toucher à l'essence même, à la nature du vin. Si le vin n'est plus qu'un une réserve de valeur stockée comme un lingot, on a complètement raté notre mission. On a même fait fausse route pour aller dans le mur, quoi.
Tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple de Cheval Blanc, je l'ai pris un petit peu à dessin parce que on a parlé donc de distribution. Et ce que tu nous as décrit en filigrane, là, c'est la place de Bordeaux. Mmh. Je dois modestement avouer que j'ai eu longtemps un peu de mal à comprendre ce que c'était la place de Bordeaux et comment ça fonctionnait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce système de la place de Bordeaux et comment est-ce qu'il fonctionne, s'il te plaît ?
Ouais, écoute, alors moi, je ne suis pas le plus grand expert de la place de Bordeaux, mais j'ai appris à la découvrir là, ces trois dernières années. Et en fait, c'est un système de place de marché où il y a plusieurs centaines d'acteurs qui sont des négociants, qui ont des allocations dans les propriétés. Et donc,
je ferai juste une précision là-dessus. On parle aujourd'hui de grands vins, mais la place de Bordeaux, quand tu dis qu'ils ont des allocations, ils n'achètent pas simplement du Cheval Blanc ou du Latour. C'est eux aussi qui sont responsables de, enfin qui sont responsables, qui sont des acteurs importants dans le fait de vendre des vins de tout type de propriété à Bordeaux, de la plus petite à la plus prestigieuse.
Absolument. Alors après, il n'y a pas d'obligation de vendre son vin au travers de la place de Bordeaux. C'est-à-dire qu'une propriété peut choisir un autre modèle de distribution. C'est plutôt un héritage culturel et une façon de fonctionner qu'une obligation. Enfin, c'est pas du tout une obligation légale. Hein.
Non, mais il y a quand même beaucoup de domaines aujourd'hui qui passent par la place de Bordeaux pour leur distribution.
Absolument. Il y a beaucoup de domaines qui passent par la place de Bordeaux. Et en fait, donc c'est un écosystème d'acteurs qui ont accès le même jour. Alors il y a plusieurs aspects, mais là je parlais de la mise en marché. Ils ont accès le même jour, à la même heure, au même vin, sur le même millésime, etc., au même prix. Donc en fait, c'est un marché ultra concurrentiel. C'est un marché ultra concurrentiel, et chaque négociant, au travers des années, voire des siècles d'existence, a su développer ses propres relations et ses propres canaux de distribution, où il va se spécialiser dans une zone géographique plutôt qu'une autre, un canal de distribution plutôt qu'un autre, etc., pour arriver à vendre quelque chose que tous ses concurrents vendent le même jour, au même prix, etc. Et en fait, je pense que l'incompréhension peut-être vis-à-vis du système de place de Bordeaux tient au fait que il ne faut pas, à mon avis, se méprendre sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et quand on travaille avec un importateur, un spécialiste de la Bourgogne, à qui on confie une location du domaine des Lambrés, on s'adresse à quelqu'un qui va nous accompagner si ce n'est la création, mais en tout cas la construction, le développement de la marque Domaine des Lambrés ou Clos des Lambrés. Un négociant, et d'ailleurs, l'importateur, distributeur, qu'il soit exclusif ou pas, a une rémunération bien supérieure à celle du négociant. Le négociant fonctionne avec des marges opérationnelles réduites. Et donc, il ne faut pas demander, à mon avis, si on veut utiliser la place de Bordeaux correctement, il ne faut pas leur demander de créer ou de développer des marques. Il faut leur demander d'aller de la façon la plus efficace possible aux quatre coins du monde, proposer nos vins avec. Ça serait totalement impossible pour nous d'avoir des ressources. Pourtant, on a des ressources importantes, mais ça ne serait pas réaliste de se dire qu'on peut couvrir tous les marchés le jour de notre mise en marché et de répercuter ce message. En fait, la place de Bordeaux, c'est un émetteur, ou c'est plutôt un transmetteur. La propriété émet un message en disant voilà, nouveau millésime, nouvelle date de mise en marché, tel prix, etc. Et dans l'heure, quand il s'agit des grandes propriétés qui retiennent toute l'attention du négoce, dans l'heure, le monde entier, et en fonction des fuseaux horaires, mais va recevoir ce message avec un commentaire du négociant en disant. Immanquable, inratable, il faut absolument que tu puisses prendre tout ce que tu peux, ou alors quelque chose d'un peu plus mesuré en disant je te propose, toi, mon client, une allocation cette année comme l'année dernière, etc.
Ça fonctionne pas comme ça pour le Clos des Lambrais. Vous êtes en Bourgogne.
Non.
Pourquoi est-ce que vous fonctionnez différemment et comment est-ce que vous arrivez sans la place de Bordeaux à répercuter le message partout où il faut?
Alors, en fait, j'aimerais bien que le Domaine des Lambrais soit sur la place de Bordeaux. Non, c'est une petite blague. S'il y a des négociants qui nous écoutent.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand même récemment, il y a des domaines non bordelais.
Oui,
qui ont commencé à mettre en marché leur vin via la place de Bordeaux. Il y a notamment des Champenois, des Italiens qui ont commencé à faire ça pour certaines cuvées. Donc c'est quand même que la place de Bordeaux doit avoir une efficacité certaine.
Avec différents degrés de succès d'ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet. Non, en fait, pourquoi on n'a pas le domaine des Lambrais ou Colguin sur la place de Bordeaux? C'est qu'en fait, on a un profond respect chez Vinexception, on a un profond respect pour l'histoire et, je dirais, presque la culture de chacune des propriétés. Et, bon, je ne te cache pas que j'ai eu 2-3 sollicitations depuis mon arrivée en disant, mais quand même, de la part du négoce bordelais, en disant, on fait quand même un travail, un travail de qualité pour Ikem et pour Cheval Blanc, on devrait pouvoir faire la même chose pour Colguin et pour Lambrais. Mais en fait, ce n'est pas une question de juger le travail, c'est une question de quelles sont les relations historiques et quel respect on a pour ces relations-là. Ça ne veut pas dire que les choses sont figées, hein, parce que notamment au domaine des Lambrais, notre distribution, en restant étrangère à la place de Bordeaux, a beaucoup évolué. À partir de la mise en marché du millésime 2019, qui a eu lieu en 2021, il y a eu un profond remaniement de nos partenariats de distribution. Mais à aucun moment, on s'est dit qu'on allait aller sur la place de Bordeaux.
Pourquoi vous avez changé? C'était quoi la volonté?
Pourquoi changer la distribution du domaine Lambrais?
Exactement.
En fait, il y a un programme de repositionnement qui est bien plus profond au domaine des Lambrais, qui commence par les changements au niveau de culture, hein, d'agriculture, donc une évolution qui a été portée par Jacques Devoge vers la bio, la biodynamie. Il y a eu un travail de compréhension des parcellaires du domaine des Lambrais. Il y a eu aussi la création et l'inauguration cette année d'une nouvelle cuverie. Donc il y a tout un programme de monter en puissance de ce domaine et de ce grand cru du Clos des Lambrais, qui s'accompagne aussi par un repositionnement du prix. Et ce repositionnement du prix, il s'accompagne aussi par un travail de la qualité de notre distribution. Et donc on a essayé de faire d'assembler la plus belle distribution possible avec des acteurs clés dans chaque marché.
Concrètement, ça veut dire que le prix il a augmenté significativement par rapport au millésime précédent?
Oui, concrètement ça veut dire ça. On est dans un contexte où la Bourgogne, je ne pense pas que je te l'apprenne, mais où la Bourgogne elle-même s'est repositionnée de façon assez vigoureuse.
On y était la semaine dernière en Bourgogne pour enregistrer. Effectivement, les notes au restaurant commencent à être un petit peu sérieuses, quoi, un peu salées.
Donc, oui, le Clos des Lambrais méritait un repositionnement. Et je dois dire que il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Ce qui compte, c'est que le marché l'a complètement compris, l'a complètement intégré et l'a complètement accompagné. C'est-à-dire que ça ne peut pas être le fait d'un management qui décide du jour au lendemain « Ah ben, ma bouteille, elle vaut 2 fois plus que le millésime d'avant ». Ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas si le marché ne le comprend pas, le rejette, et il y a des exemples tous les jours où, en fait, des vins qui sont mis en marché perdent rapidement de leur valeur parce que le marché rejette la proposition de la propriété. Ce qui est assez remarquable avec le domaine des Lambrais, ou en tout cas le Clos des Lambrés, parce que la gamme du domaine n'a pas été repositionnée. Mais le Clos des Lambrés lui-même, qui a quand même 700 ans d'histoire, une histoire très, très, très riche et qui mérite de rayonner au plus haut niveau de la Bourgogne, ça a été expliqué, certes, hein, ça a été expliqué à chacun de nos partenaires, mais le marché l'a compris, l'a accepté et l'a même amplifié, parce qu'on peut voir, et tu peux regarder toi-même, mais que le cours des anciens millésimes du domaine de Lambrés, l'écart s'est fortement réduit entre les derniers millésimes qu'on a mis en marché et les anciens millésimes qui étaient disponibles sur le second marché.
Comment ça se fait qu'il y a ce mécanisme-là là ? Parce que ce que tu es en train de m'expliquer, là, si je comprends bien, c'est qu'un 1964 aujourd'hui, sur le marché secondaire, il est beaucoup plus cher qu'il y a un an ou deux. Alors peut-être que la demande, la Bourgogne affole un peu les gens. Je dis 64,
mais disons, prenons simplement les millésimes qui sont disponibles commercialement sur le marché. C'est-à-dire, on va dire, tu prends des 2009 à 2018. Quoi, tu vois, les 10 ans de millésimes qui ont été mis en marché avant le 2019. Oui, mais il y a une logique qui fait que l'acteur professionnel ou le collectionneur sophistiqué, collectionneur privé sophistiqué, va se dire « Attends, là, je suis content de payer mon nouveau millésime du Clos des Lambrés à 500 euros et je vois que il y a encore chez mon marchand, chez mon fournisseur, ou, etc., un millésime qui a 5, 6, 7, 8 ans de plus que je peux acheter pour, allez, j'ai dit n'importe quoi, 250 euros. Eh bien, ça m'a l'air d'être une super affaire. Donc, je me positionne, je l'achète et je le mets dans ma cave. Mais les professionnels font ce raisonnement aussi. Ils se disent, attends, le nouveau vaut 500, celui-là ne vaut que 250 ou 300. Je le prends, je le mets en stock et je le revends dans un an ou dans deux ans à 400, etc. Donc, toutes ces décisions individuelles des différents acteurs, au final, contribuent à faire une revalorisation des cours sur le marché.
Comment tu t'es retrouvé là-dedans, toi ? Comment est-ce que tu es arrivé chez LVMH alors que tu étais à Londres, bien tranquille, à faire la distribution de X centaines de vins différents, et tu t'es dit, allez, j'y vais, et j'ai envie de m'occuper que de quatre propriétés maintenant.
Ouais, bah tu mets le doigt sur en disant j'ai envie de m'occuper. Alors, je suis pas seul à m'occuper évidemment, mais j'avais l'impression d'avoir très bien compris la dynamique de la distribution, parce que je t'ai parlé en introduction de la sommellerie et c'est resté toute ma carrière le cœur de mon activité, mais on ne faisait pas que de la sommellerie, on fournissait aussi les clients privés sophistiqués, c'est-à-dire qui ont une partie de rotation de leur portefeuille, ils boivent une partie des vins, ils en revendent une autre partie pour financer leur achat d'autres vins, etc. On fournissait aussi, en tant qu'importateur, on fournissait aussi les revendeurs professionnels, ce qu'on appelle les fine wine merchants, quoi, en Angleterre, quoi. Donc, brokers qui achètent, qui revendent, qui ont leur clientèle privée. Donc, bref, j'avais vraiment cette compréhension assez fine d'un truc qui est d'ailleurs pas très complexe, hein, mais voilà, j'avais juste de l'expérience. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir comment ça se passe côté de la propriété. Et la tendance de fond, je dirais, c'était aussi que je voyais une espèce d'engouement, une accélération de la demande pour les grands vins en général, certains plus que d'autres, mais les grands vins en général, et la difficulté croissante à avoir accès à plus de vins, en fait. Et encore, à l'époque, on n'avait pas encore trop en tête l'idée du global warming. Enfin, on avait l'idée du global warming, mais en tout cas, moi, je n'avais pas fait le lien avec les accidents climatiques qui pouvaient menacer les futurs millésimes de nos propriétés. Donc, il y avait simplement, on disait, bon, ben voilà, chaque propriété produit X par an. Mais la demande est en train d'exploser et notre capacité à faire de la croissance et à voilà, avoir accès à plus en plus de vins, sans même parler de la réduction de la production, va être compromise. Et donc je me suis dit, il y a forcément quelque chose d'intéressant à titre personnel et d'intéressant d'un point de vue business à faire côté propriété. Et après, bon, ça c'est l'histoire a fait, il faut de la chance dans la vie, et c'est à peu près au moment où je commençais à me poser ce genre de questions que le groupe LVMH a décidé de créer cette entité. Et puis j'ai postulé, ils ont choisi de me proposer le poste, et voilà quoi.
Qu'est-ce que c'est la logique de la famille Arnaud quand ils investissent dans ce genre de propriété? C'est des gens qui sont des fous de vin et qui veulent avoir... entre guillemets, les jouets qu'ils aiment à portée de main, ou est-ce qu'il y a une logique davantage financière? Après tout, c'est une société qui est là pour faire de l'argent, qui investit et qui voit dans ses propriétés la possibilité de gagner de l'argent et de plus en plus grâce au vin.
Ouais, alors c'est intéressant ton angle d'approche parce que c'est vraiment pas le cas de réfléchir à ces investissements comme de la rentabilité financière, parce que il y a bien plus rentable que ces investissements-là. Donc c'est vraiment... je traduis, je parle pas au nom de la famille Arnaud, mais je vais partager avec toi ce que je comprends de leur motivation, et qui est... d'avoir cette capacité de protéger et de faire et de développer un patrimoine exceptionnel. C'est un patrimoine privé, certes, mais c'est presque le patrimoine de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que ces propriétés méritent d'être préservées, d'être protégées, d'être justement pas soumises aux contraintes de la rentabilité, même si je te rassure, elles sont rentables, mais d'être vraiment dans l'expression la plus pure de la préservation de ce patrimoine naturel, de ce patrimoine culturel, de ce savoir-faire, de la transmission d'une génération à une autre, et c'est vraiment quelque chose d'unique, quoi. Donc il y a cet aspect-là, je dirais, de culturel, patrimonial. Et puis, tu m'as dit, est-ce que ce sont des fous de vin ? Non, ce n'est pas des fous de vin, mais en l'occurrence, ce sont des grands amateurs, de grands connaisseurs. Et là, le membre de la famille qui est le plus proche de nous, c'est Alexandre Arnaud, l'un des enfants de M. Arnaud, qui lui, je pense, est un fou de vin, un vrai amateur qui aime le vin, qui parle de vin, qui déguste, qui voyage, qui rencontre des vignerons, qui... ouais, c'est un passionné, ouais.
Toi, t'es un fou de vin ?
Moi, je suis un fou de vin, ouais. Aussi, ouais.
Tu te souviens de ta première claque ?
Je me souviens de ma dernière claque.
Alors, c'est quoi la dernière claque ?
Ah, la dernière claque, ça va faire très... très snob, mais... j'ai eu la chance de goûter un Romanée Saint-Vivant 1979... du domaine de la Romanée-Conti avant-hier au cours d'un événement professionnel. Alors bon, 79, c'est un millésime, c'est mon millésime. Il n'y a pas énormément de grands vins en 79, enfin en tout cas j'en ai goûté, d'ailleurs j'ai eu la chance de goûter Palmer 79, Enroyo 79. J'ai rencontré des grands vins, mais j'ai pris une énorme claque mardi soir ou lundi soir, je ne sais plus, avec Romanée Saint-Vivant, qui était bon en plus, servi dans un grand format, qui sortait de la propriété.
Donc bien conservé, ouais.
Qui sortait de la propriété, énorme. Il y avait un Latache 89 à côté, qui, peut-être que je n'étais pas objectif parce que j'avais une petite émotion pour le 79, mais qui, à mon avis, n'était pas tout à fait du même calibre.
Est-ce que tu te souviens de ton premier verre de vin ?
Bah, la vérité, c'est... non. C'était forcément en famille, hein, parce que ça c'est sûr. J'ai toujours baigné là-dedans, mais j'ai des souvenirs. Mes premiers souvenirs, on va dire marquant, c'était dans ce que mon grand-père maternel appelait son laboratoire. Donc il allait récupérer des échantillons dans toutes les propriétés dont il avait avec qui il avait des liens commerciaux. Et c'était une petite pièce dans sa grande maison là, et il fallait pas y aller. Je devais avoir, je sais pas moi, il fallait moins de 10 ans. Hein. Il fallait pas qu'il fallait pas aller, c'est qu'il fallait rien toucher. Il y avait plein de bouteilles en verre avec des échantillons à l'intérieur, et puis qu'on appelle ça des vermes gradués là. En gros, ils faisaient des assemblages.
Des béchers. Oui.
Voilà. Et en fait, comme un plateau de laboratoire. Je sais pas, je trouvais ça génial, ça sentait bon. Et donc ça, de temps en temps, il me faisait goûter. Il me faisait goûter des choses à condition de toucher à rien. Et donc ça, c'est des super souvenirs. Et puis sinon, côté paternel, ouais, dans la cave, puisqu'on avait... moi, j'ai fait plein de millésimes avec mon papa. Et puis... on avait une cave perso, enfin, où il y avait une grande diversité de vins de la vallée du Rhône. Ça, je me souviens, pour les grandes occasions, on buvait des ermitages ou des côtes rôties, on buvait aussi des châteaux neufs, mais voilà, on n'allait pas bien loin. Ou quand on y allait, en fait, on n'avait pas les. Je me souviens d'expériences plutôt. Pas décevante, mais quand on essayait d'ouvrir un vin d'une autre région, on ne savait pas les choisir, en fait. Quoi. On n'avait pas la culture. Quoi.
Poursuivons avec une petite dernière question là, sur la vallée du Rhône, justement. Une dernière grande émotion dans la vallée du Rhône à partager. T'en as une, là ? Ou un dernier bon vin que tu as vu, là, pour parler un peu de cette région qu'on aime beaucoup ?
J'en ai une, mais le problème, c'est que si je cite Rayas et DRC dans le même podcast, ça fait pas très original, quoi, mais...
Non, alors une plus petite. Alors, un domaine que tu connais et qui aurait besoin d'être mis en avant, ou en tout cas dont on parle pas assez dans la vallée du Rhône, ou qui mériterait qu'on aille les voir pour un podcast ?
Mais tu sais quoi ? J'ai... Alors ça va pas le faire pour un podcast, mais j'ai eu une super émotion là. J'ai même posté un truc sur Instagram, ce que je fais pas tout le temps, mais pas souvent même. J'ai bu un domaine de la Mirandole,
ouais.
Côte du Rhône, qui est la propriété familiale. C'est le dernier millésime que j'ai fait avec mon papa qui est décédé depuis, et il me reste quelques bouteilles de 2015. Et donc ça, c'est une bouteille qui m'a donné une vraie émotion, mais pas que pour des raisons personnelles. C'était une super bouteille à partager à la maison. Voilà.
Merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi, Romain.
Et à bientôt.
À bientôt.
Chers amis, non, je n'ai dégusté aucun des vins cités dans cet épisode lors de ma rencontre avec Mathieu. Ce fut néanmoins un échange passionnant et je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à nous souhaiter de partager un jour, chers auditeurs et auditrices, ces vins d'exception. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !